Nous voulons lire le texte qui concerne la prédication, et c'est toujours dans l'Apocalypse, au chapitre 1, où nous lisons les versets 1 jusqu'au verset 8 y compris. Apocalypse, chapitre 1, versets 1 à 8. Ce sera un message en guise de préparation pour les méditations qui vont suivre durant l'année sur l'Apocalypse. Apocalypse 1, versets 1 à 8. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et ce qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Le titre de notre prédication de ce matin, Jésus règne en maître et seigneur sur tout l'univers. Jésus règne en maître et seigneur sur tout l'univers. Et j'aimerais partager quelques pensées sur le thème suivant. Quelques éléments, je dis bien quelques éléments, du règne de Christ sur l'Église et sur le monde. On ne peut pas tout dire en quelques instants, mais je partage simplement quelques éléments du règne de Christ sur l'Église et sur le monde. Le monde, et parfois l'Église aussi, s'imagine que Dieu a abandonné l'univers à lui-même, à son bon vouloir, le laissant suivre sa course à son gré, selon sa propre intelligence cosmique. Les hommes seraient ainsi tributaires des aléas de la nature, ou pire encore, soumis aveuglément au hasard qui dirige les éléments et les événements selon la pure fantaisie de certains docteurs et sciences qui affirment le plus sérieusement du monde que leurs hypothèses sont vérifiables. Mais comment un monde si infini et si complexe que l'homme ne peut même pas sonder ni mesurer, peut-il exercer, exister et fonctionner sans le maître incontesté de l'univers, Dieu le Créateur de toutes choses? Et l'incrédule, voilà que son nom m'échappe, il y a 30 secondes, je l'avais dans la tête, le français, je ne sais plus comment il s'appelle, bref. Un incrédule notoire, philosophe, a dû avouer finalement que cette montre ne peut pas fonctionner sans horloger. Bon, le nom me reviendra, je vous le dirai quand tu me reviendras. Mais c'est impossible que cet univers fonctionne sans le Créateur. Alors, bien entendu, selon le crédit que l'on accorde à ces théories, l'on devrait vivre plus ou moins dans l'inquiétude, dans la hantise de ce qui pourrait arriver si le hasard décidait un jour d'abdiquer et de disparaître dans l'abîme du néant. Mais ce qui est étonnant, c'est que les hommes, malgré leur croyance dans le hasard, qui fait si bien les choses, disent-ils, ne se soucie pas vraiment de la tournure que pourrait prendre la réalité, réalité qu'il semble négliger malgré les événements dramatiques et tragiques qui sans cesse voudraient rappeler cette réalité à leur conscience endormie. Et pourquoi en est-il ainsi? Parce que le diable a réussi à obscurcir leur intelligence, briser leur volonté, cautériser leur conscience, afin qu'ils croient aux mensonges et s'égarent loin de Dieu, loin de la vérité, loin de la réalité, qui pourtant saute aux yeux. Mais le péché les a rendus aveugles. La question est légitime. Jésus règne-t-il, oui ou non ? Cette question nous amène dans notre premier point que j'intitule « Jésus règne certainement ». Depuis que Jésus, au jour de sa résurrection, est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu sur le trône de la majesté divine, il règne sur tout l'univers, sans restriction, sans distinction et sans aucune discussion. En effet, Dieu son Père l'a établi souverain Seigneur, juge de toute la terre, et a tout mis sous ses pieds, jusqu'à ce que tous ses ennemis soient vaincus, y compris la mort. Alors, Christ remettra toutes choses entre les mains de Dieu son Père, et ainsi Dieu sera tout et en tous. Mais déjà le psaume 2 fait allusion à ces temps où les hommes révoltés contre Dieu, les rois et les princes de la terre en particulier, esclaves de leurs vaines pensées, se soulèvent contre Dieu et contre son Christ. Ils parlent avec arrogance de se débarrasser de Dieu et de son Fils afin de vivre à leur guise, dans une indépendance totale, loin de Dieu, loin de ses commandements. Mais l'Éternel dans les cieux rit. Il se moque d'eux, car dans sa colère, il va les épouvanter en leur disant « C'est moi qui établis mon Fils en tant que roi de l'univers. Je lui donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre seront à lui. Il brisera les peuples avec une verge de fer comme un potier brise un vase. » Le décret publié, poursuit le Seigneur, sachez-le bien et prenez garde. Juges de la terre, conduisez-vous avec sagesse, servez l'Éternel avec crainte, pliez le genou devant le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez, car sa colère est prompte à s'enflammer. Et il termine en disant, mais heureux tous ceux qui se confient en lui. Et si les hommes se liguent contre Dieu, ne serait-ce pas parce qu'au fond de leur cœur, ils pressentent, consciemment ou inconsciemment, que Dieu existe? Et s'il existe, il règne, nécessairement. Et s'ils ont ce sentiment, c'est parce que Dieu a mis la pensée de l'éternité au plus profond de leur être, créé à son image. Ainsi, il est évident qu'on ne se débarrasse pas de Dieu si facilement, ni même totalement. Car Dieu lui-même prend soin de manifester constamment sa présence par des signes de puissance de son règne, au sujet de son règne universel. Il ne se passe pas un jour, que dis-je, il ne se passe pas une heure, non, il ne se passe pas une minute, une seconde, sans que sur la surface de la terre, il n'y ait pas un signe de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu. Il suffit de quoi ? D'ouvrir les yeux. Si le monde ne s'est pas encore écroulé, c'est parce que Dieu règne. Vous êtes d'accord ? Sinon le monde, il y a longtemps qu'il se serait écroulé. En effet, c'est par sa parole que Dieu soutient toute chose et que toute chose subsiste en lui pour la seule gloire de son nom. Jésus donc règne sur le monde, mais pas seulement, il règne aussi sur l'Église. Il habite au milieu d'elle, il tient dans sa main droite les anges des églises, de toutes les églises. Il veille sur son Église, prie, intercède pour elle, l'instruit, la conduit dans sa parole, parole qu'il révèle par son esprit et par ses serviteurs conformément à la volonté de Dieu qui fait de son Église la colonne et l'appui de la vérité. Et si le monde ne le reconnaît pas, ce n'est pas toujours la faute à l'Église. En partie, oui, mais c'est surtout leur faute à eux. En vérité, en réalité, tout pouvoir, toute autorité ont été donnés au Fils par le Père en vertu de son œuvre à Golgotha. Et cela afin qu'il juge l'Église et le monde, qu'il sauve les uns ce que le Père lui a donné et les amène au but et laisse les autres s'en aller à la perdition éternelle, ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ce sont des textes terribles, terriblement solennels. Tous les hommes ont part à ce jugement. Tous les hommes sont soumis aux mêmes contingences terrestres. Tous sont éprouvés par le feu, chacun en son temps, selon sa manière et à la mesure que Dieu a prévue pour les uns et pour les autres. Puisque le règne de Christ s'étend sur tout et sur tous, personne donc n'échappe à sa domination souveraine. Personne, absolument personne. Même ceux qui sont jamais nés se présenteront un jour devant le trône de Dieu. Même ceux qu'on a brûlés, même ceux qu'on a cachés, même ceux qu'on a voulu, enfin je ne sais pas. Même pas un ongle restera en arrière. Cependant, comme autrefois au pays d'Égypte, Israël a été protégé contre certaines plaies. De même, en ces temps qui sont les derniers, les élus seront préservés des malheurs réservés aux impies. Des plaies terribles et mortelles, destinées à faire réfléchir les incrédules afin qu'ils se tournent vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Quoi qu'il en soit, ce sera une époque difficile, pénible, pour les hommes, les femmes et même pour les enfants. La détresse sera grande sur la terre, surtout sur le plan économique, mais aussi politique et religieux, où une confusion extrême régnera à ce sujet. Le mal prendra des proportions inquiétantes, terrifiantes, insurmontables. Les tribulations ne manqueront pas pour les chrétiens. Moquerie, mépris, discrimination, persécution, extermination. C'est pas vrai? Mais ces temps seront abrégés, dit le Seigneur, à cause de nous, à cause des élus. Comprenons bien, l'esprit anti-Dieu, anti-Christ, anti-chrétien existe depuis toujours. Car, nous dit l'apôtre Paul, ce qui est né de la chair combat ce qui est né de l'esprit. Cet état de choses perdurera au travers des siècles et s'accentuera, se développera considérablement au temps de la fin pour atteindre son paroxysme au retour de Jésus-Christ. Car, sachons-le bien, le grand dragon, le grand inquisiteur, Satan, le serpent ancien, ne recule devant rien pour assouvir sa vengeance. Car pour lui, la fin justifie les moyens. Il enverra une bête hideuse, monstrueuse, qui sort de la mer. Une bête doucereuse, douteuse, pernicieuse, qui monte de la terre, accomplir sa sale besogne, la sale besogne à sa place et en son nom. Elles réussiront jusqu'à un certain point, vaincront dans une certaine mesure, mais le Christ les arrêtera net dans leur folie meurtrière et les jettera dans l'enfer créé tout exprès pour le diable et pour ses anges. À cause de tout le mal que le diable engendre dans le monde par l'Antichrist et par son faux prophète, on a l'impression que Jésus doit capituler devant les forces ennemies. Je dis bien, on a l'impression. Mais n'oublions pas, les apparences sont trompeuses. Certes, la situation générale n'invite guère à l'optimisme béat. Les circonstances sont parfois terribles, souvent pénibles. La confusion extrême qui prévaut dans tous les domaines, jusque dans les plus hautes sphères gouvernementales, nationales et internationales, laisse penser que c'est le Satan qui domine et non pas le Seigneur. Seulement, si l'on regarde de plus près, si l'on considère attentivement tout ce qui se passe, et si l'on pose un regard spirituel sur les événements qui se déroulent au fil du temps, on s'aperçoit bien vite que derrière les coulisses, quelqu'un d'autre tient les commandes, et quelqu'un d'autre tire les ficelles. En effet, mes chers amis, rien n'arrive sur notre bonne vieille terre sans la volonté du Seigneur. Il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Et rien ni personne ne pourra l'empêcher d'accomplir son plan pour l'Église et pour le monde, plan qu'il a conçu de toute éternité, dès avant la fondation du monde. Et celui qui veut essayer de s'opposer au Seigneur se cassera les dents. Pourtant, il faut bien l'admettre, si le règne de Jésus est réel et total, s'il est irrésistible, irréfutable, indestructible, son règne est un règne en partie caché, voilé par les nuages sombres du mal, c'est-à-dire que son pouvoir s'exerce à l'arrière-plan depuis son trône céleste, à partir duquel il donne et ordonne toutes choses. Il agit par sa parole qui peut tout et sans laquelle rien ne se fait. Parole à laquelle obéissent tous les anges qui sont à son service pour exécuter ses projets. Toutefois, c'est à dessein que Dieu en Christ règne de la sorte, je veux dire d'une manière apparemment cachée. N'est-il pas écrit dans le livre de Deutéronome, si je ne me trompe pas, pardon, les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu. En effet, frères et sœurs, le Seigneur laisse à Satan l'illusion qu'il domine, comme au jour de Moïse, comme au jour de la croix. Mais quand Dieu manifeste son triomphe par la destruction de l'armée de Pharaon dans la mer Rouge ou par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, alors le diable se rend compte qu'il a été trompé et le trompeur est trompé à son tour. Il récolte en premier ce qu'il a semé. Il est logique, puisque Dieu est tout-puissant, que Satan n'a jamais l'avantage, sauf pour le regard des incrédules et des impies qui s'imaginent que Dieu n'est pas ce qu'il prétend être. Dieu laisse aux hommes le soin de discerner la réalité au-delà des apparences, de regarder au-dessus des nuages ténébreux qui obscurcissent l'atmosphère céleste, là où le soleil de justice brille perpétuellement. Et c'est où? À la croix de Golgotha, qui reste encore et toujours debout. Car il faut chercher Dieu, même en tâtonnant, et Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Eh bien, il faut le reconnaître. Humainement parlant, les apparences donnent le diable gagnant sur toute la ligne. Mais spirituellement parlant, la réalité est tout autre. Et cela sera bientôt manifesté quand Jésus reviendra chercher son Église. Rappelons-nous seulement comment Dieu a déjoué tous les complots de l'ennemi qui voulait faire échouer le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Il excite Caïn à tuer son frère, Abel. Mais Dieu suscitera Seth dont le nom veut dire mis à la place de, mis à la place de Abel. Il pousse les hommes à se livrer au mal de telle sorte que Dieu devra intervenir par le déluge. Mais Dieu suscite Noé qui construira son arche de salut. Il incitera la nouvelle humanité à se révolter contre Dieu et à le détrôner en construisant la tour de Babel. Mais Dieu jettera la confusion au milieu d'elle et suscitera Abraham et son peuple d'Israël, duquel sortira le Messie. Dès lors, le diable s'acharnera continuellement contre le peuple de Dieu, en particulier contre la lignée du Messie, pour la faire périr et l'anéantir, et anéantir ainsi le plan de Dieu en vue du salut du monde. La seule histoire de l'esclavage en Égypte, de l'exode à travers la mer Rouge et des pérégrinations d'Israël dans le désert le montre amplement. Je ne veux pas m'arrêter sur ces détails parce qu'on en aurait jusqu'à demain soir. Ou bien ça vous irait? On peut camper ici, hein? Enfin, à peine le Sauveur était né, que l'ennemi mettra toute son énergie à le poursuivre tout au long de sa vie et de son ministère, afin de le détruire, de se défaire de lui et de prendre le pouvoir. Et quand Jésus, finalement, pendait sur le bois infâme, le diable pensait avoir remporté la victoire. Et déjà, il se frottait les mains. Ça y est, je l'ai eu. Une fois pour toutes, là, c'est bien fait. Mais il n'a gagné qu'une bataille. Et encore, il n'a fait que ce que Dieu voulait. Car par sa résurrection d'entre les morts, Dieu en Christ a triomphé du péché et de la mort, vaincu le mal à tout jamais et voué l'adversaire à la mort éternelle, à cette mort à laquelle il voulait asservir tous les hommes. Par conséquent, c'est l'évidence même, mais il faut le proclamer encore et toujours. S'il y a guerre entre Dieu et Satan, entre le mal et le bien, et que cela se manifeste jusqu'aux extrémités de la terre, dans l'humanité tout entière, c'est la preuve que ces réalités spirituelles existent. C'est plus qu'évident. Et si Jésus à Golgotha a triomphé de l'ennemi, c'est encore la certitude qu'il règne et que son règne est un règne de victoire et de gloire au siècle des siècles. Ainsi la croix est et restera pour toujours le signe visible et tangible du triomphe éclatant et éternel de la puissance infinie de Dieu sur le mal et de sa souveraineté absolue sur l'univers. Cette croix, frères et sœurs, point culminant de la rédemption, est le message par excellence de l'amour infini de Dieu qui, par elle, en Christ, est venu délivrer les hommes de l'empire et de l'emprise du mal, du péché et de la mort. Et le monde entier s'en couble sur cette croix. Mais il passe outre, comme si elle n'existait pas. Pourquoi on dit le jour du Seigneur? Pourquoi il y a des églises? Pourquoi il y a des chrétiens? Pourquoi il y a une Bible? Pourquoi il y a des... Enfin. Ainsi donc, Jésus règne. Au-delà du jugement, son règne est un règne de paix et d'amour. Il l'est déjà, il le sera pour toujours, pour tous les élus qui auront accepté son règne dans leur cœur. Selon qu'il est dit, notre Père qui est, ce qu'on veut le dire ensemble, juste la première partie, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Merci. Et ceci nous amène à notre deuxième point, Jésus règne visiblement. Dieu se révèle de mille et une manières, mais essentiellement par sa parole exprimée qui crée toute chose, par sa parole inspirée qui révèle toute chose, et par sa parole incarnée qui sauve tous les hommes. Seulement, Jésus se révèle aussi par des signes particuliers, des miracles, des prodiges, qui confirment sa divinité, qui accompagnent sa parole et qui attestent la réalité de son règne, quand bien même le diable les contrefait. Quand Jésus se présente à son serviteur Jean sur l'île de Patmos, il se manifeste d'une manière particulière, selon les visions que les prophètes de l'Ancienne Alliance avaient l'habitude de recevoir et qu'ils comprenaient, du moins en partie, parce qu'elles étaient conformes à la façon dont Dieu se révélait à ses saints prophètes et serviteurs depuis toujours, en des occasions spéciales. Et si l'on considère les différentes visions par lesquelles Dieu s'est révélé à ses serviteurs, les prophètes, et aux apôtres sur la montagne de la Transfiguration, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs choses qui sont constantes. La lumière éclatante de blancheur, éblouissante de pureté, le feu de sa sainteté, de sa force, le flamboiement, l'embrasement de sa gloire, le mouvement incessant, incandescent de son être tout entier, la majesté de sa présence, la flamme de son regard, l'éclair de sa pensée, le tonnerre de sa voix, la puissance de sa parole plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, et bien d'autres choses encore qui manifestent Dieu dans sa, que Dieu manifeste dans ses révélations. Notre Dieu, invisible, inaccessible, incompréhensible, hors du temps et de l'espace, au-delà de tout ce que la raison humaine peut concevoir, se montre donc d'une façon visible et tangible, compréhensible et accessible à tous. Et par sa parole, par sa lumière divine, il éclaire l'intelligence des humains, afin que ces visions particulières, parfois exceptionnelles, les interpellent directement, ou par le moyen de ses serviteurs et de ses témoins. Je vous invite, frères et sœurs, à relire tous ces textes qui parlent de notre Dieu, qui se révèle, qui ne reste pas caché, silencieux, enfermé dans sa tour d'ivoire et laissant l'humanité à son sort misérable, mais qui se montre et se démontre de mille et une manières, cherchant à attirer sur lui l'attention de l'humanité qu'il veut sauver et pour laquelle il acceptera en Christ de descendre jusque dans les bas-fonds du péché, tout en manifestant son immense amour, en se laissant clouer sur une croix par ses créatures. Et là encore, il prouve que c'est lui qui réconcilie le monde avec lui-même, en manifestant sa force, sa sagesse, par des éléments naturels et surnaturels. À la croix de Golgotha, les ténèbres en plein midi, les éclairs, le tonnerre, la résurrection des morts, et que sais-je encore? Et oui, et surtout par la résurrection de Christ d'entre les morts, historiquement attestée, et par l'Église qui témoignera de sa puissance. C'est ainsi que Dieu a choisi de se révéler, parfois en dehors de sa parole écrite, par les éléments qu'il a lui-même créés. L'eau, le feu, le vent, la terre, la lumière, le soleil, la lune, les étoiles, les animaux, les plantes et autres, qu'il peut utiliser comme il veut pour parler aux hommes, et par beaucoup d'événements, de phénomènes surnaturels, plus ou moins explicites, qui confirment que le Créateur des cieux et de la terre, celui qui a aussi créé l'homme, se révèle en faveur des hommes et pour leur salut, en les avertissant du danger qu'ils courent s'ils restent éloignés de lui. Quelques exemples. On arrive bientôt au bout. Merci de votre patience. L'eau du déluge a détruit le monde ancien. Le feu du ciel a jugé les villes de Sodome et de Gomorre. Les vagues et parfois la terre a tremblé, engloutissant des hommes. Les vagues et le vent s'unissent pour faire chavirer des navires. Un gros poisson a recueilli Jonas. Une ânesse s'est mise à parler à Balaam. Le soleil peut perdre sa force, la lune pâlir, les étoiles perdre leur éclat, les ténèbres envahir l'atmosphère, l'eau se changer en sang, la terre se dessécher, l'environnement se polluer, la végétation s'arrêter, la vie se paralyser, les hommes mourir de froid, de chaud, de soif, de faim. Bref, toutes sortes de désordres sont en cours. J'ai pas besoin de vous faire de dessin, la pollution du monde, le bouleversement climatique, les changements écologiques, les perturbations saisonnières. Où est la neige qu'on avait il y a 50 ans en arrière? Les disparités économiques, la famine, la maladie, les épidémies, la mortalité sont monnaie courante. Les accidents et les catastrophes se multiplient, les guerres de religion augmentent sans cesse, le pouvoir politique s'est corrompu à tous les niveaux, l'abandon de Dieu s'est généralisé, démocratisé, le mal est justifié. Et Habacuc déjà disait, Seigneur, comment tu peux permettre de telles choses? Le mal est justifié, le bien est condamné. Vous écrivez quelque chose de bien au sujet de Charlie Hebdo, on vous condamne. La vie s'est dégradée, le monde s'est complètement délabré, la fin est imminente. Mais Dieu n'est pas limité dans ses moyens. Comme il l'a déjà prouvé, il peut parler encore plus fort, prévenir le monde au sujet des jugements qui vont s'abattre sur lui. Il a déjà envoyé des cataclysmes, des tsunamis, de nombreux tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des inondations, des sécheresses et les chevaux de l'Apocalypse. Coursiers de la guerre, de la famine, de la peste et de la mort ne sont pas encore au repos. Ils courent encore. Et les anges qui exécutent les ordres de Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre sont prêts pour le jour et l'heure où Dieu décidera de frapper la terre et de venger ses serviteurs. Car le monde est ivre du sang des saints. C'est terrible. Gare à la vengeance de Dieu. Ne vous vengez pas vous-même, frères et sœurs. Mais je vous le dis, j'aimerais le dire aux hommes. Gare à la vengeance de Dieu. Elle sera terrible. On ne se moque pas impunément de Dieu. Toutes ces choses, et plus encore, sont en train de se dérouler sous nos yeux. Comme au temps de Moïse, Dieu est en train de faire sortir son peuple du monde du diable, du siècle présent, mauvais et méchant. Et ce Satan, ce puissant pharaon, ne veut pas lâcher prise. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Il prend son temps. Et au moment voulu, les plaies des derniers temps se répandront sur la terre. Et les hommes, croulant sous le poids de la colère de Dieu, se lamenteront, hurleront de douleur, nous dit l'Apocalypse. Mais ils ne se repentiront pas. Et ils périront sous le juste jugement de Dieu. Ces plaies seront terribles, il y aura des maux sans nombre, des guerres effroyables, une violence épouvantable, la terreur régnera en maître. Mais n'est-ce pas déjà le cas aujourd'hui? La terreur régnera en maître, on ne sait pas demain si on se fera fusiller ou non. Les chrétiens sont persécutés à outrance, le mal atteint des proportions affreuses, monstrueuses. Les hommes se trahiront les uns les autres, se détruiront les uns les autres. La grande Babylone, avec tout son or, son argent, son faste, son luxe, ses passions infâmes, sa débauche spirituelle, sa méchanceté, sa cruauté, son cœur asservi au prince des ténèbres, s'effondrera, s'écroulera en un instant et sa ruine sera grande. Les nations de la terre seront entraînées vers leur destin final par la folie de leur cœur, vouées au mal, au père de l'iniquité. Et là, le Seigneur les combattra, les vaincra, délivrera son peuple de l'ennemi éternel, de l'ennemi mortel, qu'il jettera dans les temps de feu et de soufre, avec ses anges et ses acolytes, l'Antichrist et le faux prophète. Hein? Vous êtes d'accord que je respire avant de dire cette phrase? Et les élus de Dieu, et quoi? Et les élus de Dieu prendront possession du royaume que Dieu a préparé pour eux. Waouh, frères et sœurs! Quand Jésus reviendra, tout œil le verra, c'est-à-dire que le souverain Seigneur lui-même se montrera d'une manière universelle, alors il ne subsistera plus aucun doute. Il ne subsistera plus aucun doute, son règne était bien réel et évident. Mais pour tous ceux qui ne se seront pas soumis à son règne, ce sera trop tard. le temps de la grâce aura pris fin, car l'heure du jugement a sonné. Est-ce que vous me permettez de faire le dernier point? Ça prend maximum 5 minutes. C'est gentil, merci. Jésus règne certainement, Jésus règne visiblement, et en guise de conclusion, Jésus règne justement, d'une manière juste. Que ce soit pour l'Église ou pour le monde, le règne de Jésus est impartial. Son jugement est saint, juste et bon, car il n'y a aucun mal en lui. Il laisse simplement, à cause de son amour, les hommes chrétiens ou non, assumer leur responsabilité de créature libre. Car l'amour n'impose pas, mais propose. L'Église est jugée justement conformément à tout ce qui est écrit. Et tous les élus comparaîtront un jour devant le tribunal de Christ. Le monde est jugé justement conformément à sa parole. Et tous les incrédules comparaîtront un jour devant le grand trône blanc. Et devront répondre de leurs paroles et de leurs actes. Personne n'est censé ignorer la loi de Dieu, ni même la croix de Christ. Ceux qui seront jetés dans le lieu de tourment n'iront pas en enfer à cause de leurs péchés, mais à cause de leur refus de la grâce et du salut. Ceux qui iront au paradis ne seront pas sauvés par leurs œuvres, mais par la foi, don de la grâce de Dieu en Jésus, lorsqu'ils ont répondu oui à l'appel de Dieu. La première vision de Jean au début du livre de l'Apocalypse que nous méditons nous rappelle que Jésus, en entrant dans son règne et en ouvrant les sceaux de l'histoire de sa royauté, s'est présenté d'emblée comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le souverain juge de la terre et aussi comme le souverain sacrificateur de son peuple selon l'ordre de Melchizedek et encore comme l'agneau de Dieu qui sort du trône en tant que le lion de Juda. En un mot, il signale à tous, par la manière dont il est vêtu, par sa couronne autour de sa poitrine, de ses reins, par son visage rayonnant comme le soleil, par sa lumière éclatante, sa blancheur éblouissante, par le feu qui embrase sa personne, et par l'épée aiguë qui sort de sa bouche, qu'il est bien le Sauveur et le Seigneur du monde, assis sur le trône de Dieu, pour juger l'Église et pour juger le monde. Et je termine. Jésus donc règne, certainement. Il règne visiblement et il règne justement. Que Dieu nous aide à chacune et à chacun de prendre garde aux signes des temps, car sa venue est proche. Au milieu de la nuit, quand les hommes diront paix et sécurité, une ruine soudaine les surprendra et subitement, le roi de gloire fera son apparition. À lui la gloire et la puissance et le règne au siècle des siècles. Amen.